Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors avant de commencer la troisième partie de Cappuccino, je voulais rendre hommage à une personne qui m'était chère, Cécile Méléras Cacon, que vous ne connaissez pas, mais qui faisait partie d'un groupe d'amis. Cécile vient de partir tranquillement à l'âge de 92 ans. Sa vie avait été difficile, née avant-guerre et de confession juive. Elle s'était ouverte sur les douleurs de la guerre et on en avait fait une belle émission. Après-guerre, elle a continué son petit chemin de vie avec ses frères, ses sœurs, son fils et ses petits-enfants, avec beaucoup de joie et d'envie de mordre la vie. On jouait ensemble de la mandoline, elle aimait l'Italie, elle avait appris l'italien. Alors le mieux pour continuer à se souvenir d'elle, c'est de l'écouter, nous raconter un bout de son histoire simple, comme 6 millions de Juifs qui ne demandaient qu'à vivre et rire ensemble. Remerciements à Marie Wadman, toutes nos condoléances à sa famille. Ciao Cécile.
Et à l'époque, ça se passait très bien. Dans le quartier, il y avait une ambiance qui était presque une ambiance de village.
Exactement. Nous habitions au troisième étage, sans confort. Il fallait descendre trois étages pour aller aux toilettes. Mais on se lavait dans la cuisine.
Alors, il y avait toutes les nationalités.
Toutes les nationalités, il y avait des juifs polonais, il y avait des juifs lituaniens, des russes, et ça c'était du côté de la rue Bafroy. Quand on traversait l'avenue Ladurelin, on allait vers la rue Popincourt, et là-bas il y avait les juifs grecs et turcs.
L'ambiance était très bonne, il n'y avait pas du tout à l'époque de soucis vis-à-vis des juifs.
Pas du tout, ça c'était avant la guerre, ouais. Pas du tout, il n'y avait pas de problème.
Il y avait une bonne ambiance chez toi.
Très bonne ambiance.
En fait, vous étiez souvent avec tes repas de famille et on chantait et on jouait de la mandoline.
Voilà, mon père jouait de la mandoline et puis on chantait toujours et la voisine venait voir, elle ne comprenait pas pourquoi. On était pauvres, mais on était toujours en train de chanter.
Et Ben nous shalom aleichem.
Un jour, il y a eu une grande rafle des hommes juifs. C'était en 1941. Mon père était parti travailler. On a entendu qu'il y a eu une rafle. Ma mère m'a envoyé voir si mon père était arrivé au travail. En retournant à la maison, je pleurais. J'avais 9 ans. Un homme à bicyclette m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit que mon père avait été pris. Il m'a dit de retourner à la maison et que sans doute mon père serait là. Hélas, en arrivant à la maison et me voyant en larmes, ma mère a compris. Le 22 juin 1942, mon père a été transféré à Auschwitz où il a été gazé 2 jours après.
Thank you.
vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, no, no. E va bene lo so, no, no. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presente Cappuccino. Il presentatore del 9.30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Voilà.
Ciao Michele.
Bene,
Michelino, come voilà. Sta? Bene.
Alors c'était un petit peu compliqué de faire comme ça un hommage voilà, sur quelqu'un que les gens forcément connaissaient pas vraiment, mais à l'écouter Cappuccino. 92 ans, elle est partie tranquillement. Et en plus, bon, une histoire malheureusement bon, comme,
ah ben oui,
beaucoup
comme
de gens avec son papa qui était décédé à Auschwitz. Voilà, on salue toute la famille et Marie Wadman. Bon réveil à tous, plein de bonnes choses. Là, dans troisième partie de Cappuccino, on va prendre de la hauteur.
Ah.
Ouais, on va prendre de la hauteur.
Bah, c'est la période en même temps.
Eh bah oui, avec l'inauguration de Notre-Dame, vous savez que c'est dans quelques jours, avec un invité au doigt d'or, Roberto Merlo, restaurateur des tableaux de Notre-Dame, qui ont été abîmés après l'incendie. On découvrira au plus près ces travaux merveilleux de la restauration donc de ces tableaux de Notre-Dame. Et puis notre ami Carmelo Mondello animera cette émission. Avec moi.
Bonjour à tous.
Ciao, comment?
Voilà, Domenica. Ouais.
Alors, si vous avez des soucis par rapport à la musique, c'est pas moi, c'est Mélo. Hein.
c'est
lui qui a programmé les chansons. Non, ils sont très belles. Il nous fait une petite partie des années 70.
Oui, il y a 50 ans, en fait.
Il y a 50 ans.
Je suis tombé sur un classement du Hit Parade en 1974, novembre. Et ben j'ai extrait des chansons de ce classement.
Ben voilà, donc on donnera quelques petites informations sur le sport et puis également sur les activités culturelles. Allez, on va démarrer justement avec une chanson que tu as choisie qui s'appelle I Cugini di Campagna.
I Cugini di Campagna, un complesso. À l'époque, les groupes s'appelaient Complesso et il y en avait beaucoup. Et on va en écouter quelques-uns. On va écouter donc Cugini di Campagna, on va écouter après I Romans aussi. Et c'est une chanson qui a fait un carton dans les années 70. Ils ont eu beaucoup de succès des années 60, de 70 à 77 à peu près, avec beaucoup, beaucoup de tubes. Anima mia, un'altra donna. Et là, on va écouter Innamorata.
Piedi con
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Bon réveil à tous, vous êtes à l'écoute de Capuch, effectivement, on salue Enrico qui est en pleine forme là, parce que, en fait, faut pas le dire, mais c'est son anniversaire. Bon anniversaire, gna 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 gna. Il y a quand même quelques annonces de cinéma rapidement.
De cinéma et de théâtre. Aujourd'hui, on peut encore voir ce soir à 20h30 au théâtre Galabru de Montmartre, Surtout pas de vagues, de Joël Adani avec sa troupe. Donc c'est au théâtre Galabru qui est 4 rue de l'Armée d'Orient dans le 18e, métro Abbès ou Blanche. Le cinéma, Mello parlait tout à l'heure de 1974, le 13 novembre 1974, est mort à Paris, Vittorio De Sica, et donc on fête là les 50 ans de sa mort. Il est mort malheureusement d'un cancer, acteur et réalisateur par la suite. Et donc, les éditions Grémez ont fait paraître un magnifique ouvrage par différents contributeurs italiens et français qui s'appelle « Tout sur Vittorio De Sica », comme en 22, ils avaient fait « Tout sur Pasolini ». Et là, il y a une édition française, une édition italienne, et Jean Gilly également va sortir bientôt un livre qui s'appelle « Vittorio De Sica », spéciale monographie de Vittorio De Sica. On le recevra en décembre, dès que j'aurai reçu l'ouvrage. Le cinéma aussi, c'est un film qui va sortir le 27 novembre. C'est « La belle estate ». Vous connaissez « La belle estate », il y a un romanzo de Pavese, Cesare Pavese. C'est mis en scène par Laura Lucchetti. C'est l'histoire de Giulia qui a quitté sa famille pour retrouver du travail en ville. Voilà. Et donc, c'est un roman d'initiation, un film d'initiation. Ça sortira mercredi en salle. La belle estate de Laura Lucchetti. Les expositions, très rapidement, les expositions. On peut voir la collection Torlonia au Louvre, les sculptures de la collection Torlonia. On peut voir la collection Borghese, là des tableaux plutôt au musée Jacquemart-André. Si on aime aussi l'art contemporain, on peut voir l'Arte Povera, bien sûr.
On en avait parlé, l'Arte Povera.
Voilà. Et puis aussi...
Oh, ouais, t'as vu le coup de la banane?
Oui, oui.
La banane.
Oui, finalement, elle était vendue, c'est ça?
6 millions.
Ouais, mais, non, mais,
les gens ont tellement d'argent qu'ils savent plus quoi en faire.
Non, mais j'ai vu un documentaire Marcel Duchamp, qui est l'inventeur des ready-made, c'est-à-dire qu'il a pris des séchoirs à bouteilles, il a dit c'est une œuvre d'art. Il a pris un urinoir, il a dit c'est une œuvre d'art. Ouais. Et du coup, il a décidé que 12 étaient, mais il y a un critique d'art qui a dit, s'il y a certains artistes qui amusent des milliardaires,
oui,
pourquoi
voilà,
pas?
C'est ça. C'est des bouffons, ces artistes.
C'est de la spéculation.
Non,
alors, plus intéressant, à la fois, Fondation Custodia, plus de 120 dessins de la Renaissance italienne, 121 rue de Lille, Fondation Custodia. Ecco tutto.
Merci à toi. On va juste donner trois infos rapides de sport. On a parlé un petit peu le tennis italien. Alors là, ils sont au firmament.
La Coupe Davis, ouais.
Jannik Sinner, numéro 1 mondial, qui remporte le vainqueur de l'ATP. Hein, donc, il est numéro 1 sans problème. Les filles de la Squadra qui gagnent l'équivalent de la Coupe Davis. Hein, c'est la cinquième victoire. Et également, chez les hommes, ils sont en finale. Donc, on verra ce soir à 16h, ça sera la finale de la Coupe Davis. Ils vont essayer de remporter encore la Coupe qu'ils avaient gagnée l'année dernière. Également, le Vendée Globe, notre ami Pedotte, il a eu une dépression. Alors, c'est pas lui qui a eu une dépression, hein, c'est le vent qui n'était pas là pendant plusieurs jours. Et du coup, il a reculé. Mais il est battant, on va l'écouter. Juste une trentaine de secondes, parce qu'il a envie de se battre. On l'écoute, Pedotte.
Siamo quasi all'equatore, due settimane con un sacco di lavoro, purtroppo questa opzione a est ci ha penalizzato tantissimo, adesso speriamo di entrare nel match, la vela strappata mi ha preso un sacco di energie, vabbè, noi siamo sempre concentrati e andiamo avanti, 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 sud!
Voilà, il y va, il y va. Et nous aussi, tous les dimanches comme ça, on aura une petite...
Rotolande avec
son souffle. Si, forte quand même, hein, c'est costaud ouais. Hein, quand même. Donc là, il a redescendu un peu, il est 29e, mais ils sont tous encore très groupés, hein, il peut largement rentrer dans les 15 premiers. Alors, une chanson, et après on passera à notre invité, donc toujours les années 70, avec le frère toujours de Marcel Labelle.
Toujours ce Hit Parade de la semaine du 11 au 16 novembre 1974, donc il y a 50 ans. Et classé septième dans ce classement, il y avait Gianni Bella qui commençait à avoir du succès. Il a commencé à écrire des chansons pour sa sœur, Marcella Bell. C'est lui l'auteur d'études Montagne et Vert, tous les tubes. Et il a commencé à se lancer en carrière, à chanter donc lui-même ses propres chansons. Et là, c'est Pucci Pence qui a fait un carton en 1974.
Sono cambiati, non mi dire chi li ha carezzati. Fossi un pittore, brucerei il tuo ritratto, ma sono solo un amante distratto. Io non posso ballare, non voglio, mi lasciasti solo col mio orgoglio. La mia anima in un labirinto, dove ho spento il fuoco con le mani. Ma come vuoi che io ti dica rimani, se ti sfioro eppure siamo lontani. Più ci penso più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente diversa tu sei. Forze di uomo sono poche, perdono, io mi avvicino e riscopro il tuo seno, il tuo profumo come un dolce veleno, spezza il ricordo di pure emozioni. Lei aveva una paura dolce, il tuo sguardo taglia come una falce, io di te subisco la presenza, ma di lei non posso fare senza. Sono qui con te, mio cuore consumo, come lei non mi amerà nessuno. Più ci penso più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente più bella tu sei. La mia sete cresce fin che l'acqua ci pensa più mi viene voglia di lei. Più ci pensa più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente diversa tu sei. La mia sete cresce finché l'acqua non c'è, e ora che ci sei, ci pensa più mi viene voglia di lei.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Bon réveil à tous. On rappelle quand même le téléphone, c'est le 01 40 24 29 29. Alors, comme il est loin du micro, notre ami Raph, Alain, en italien.
01, 40, non, so bene. 29.
Bravo, bravo, bravo. 40242929. In italiano si dice più numero per numero, no? Alors, on salue notre invité Roberto Merlo, qui est avec nous et qui a les doigts d'or, comme on expliquait tout à l'heure, parce que c'est extraordinaire les choses qui réalise. Donc, une petite bio rapide, habilité à exercer pour les musées de France depuis 2017, diplômé depuis 2013 d'un master de conservation et restauration des biens culturels auprès de l'université d'Urbino Carlo Bo. Roberto Merlo arrive en France en 2014, date à laquelle il commence sa collaboration avec Arcane. Il participe à de nombreux chantiers prestigieux et de grande complexité technique, l'ensemble décoratif de la chancellerie d'Orléans, le plafond peint par Servandoni du château de Condé en Brie, la toile monumentale de Hubert Robert dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de Beaumarchais, les toiles marouflées du salon de la paix de Lebrun au château de Versailles, ainsi que les scènes du massacre de Schio de Delacroix. Parallèlement à ces chantiers, il a participé à la restauration de plusieurs œuvres de chevalets appartenant au plus important musée de France, les Attributs des sciences de Chardin, ainsi que le Saint Thomas de Velázquez. Il se spécialise dans les techniques d'analyse non invasive des œuvres d'art à travers la participation à différents Hyperion Camp, organisé par l'Opificio delle Pietre Dure de Florence. Il a participé à l'étude de plusieurs chefs-d'œuvre, dont la Vierge au fuseau de Leonardo da Vinci, ou encore les trois tableaux de la chapelle de Saint-Mathieu peints par Caravage à l'église Saint-Louis des Français de Rome. Bonjour Roberto.
Bonjour, bonjour, merci beaucoup.
Comment stai? Tutto bene?
Bene, molto bene.
Voilà, c'est très...
Merci c'est très flatteur
pour nous que tu viennes. Alors, on rappelle qu'il y a un an et demi, il y avait Cinzia Pasquale qui était venue, qui est aussi quelqu'un qui est d'Arcane.
Ah oui, oui. C'est la fondatrice avec Véronique d'Arcane. Maintenant, on a fêté cette année les 20 ans de la société.
Arcane, qui est une société justement qui restaure les tableaux abîmés. Et elle était venue pour nous expliquer qu'elle avait restauré un Leonardo da Vinci. Et gentiment, elle nous en avait parlé. Et donc là, toi, tu as plutôt restauré les tableaux de Notre-Dame. Hein. On va inaugurer Notre-Dame dans quelques... 15 jours à peine maintenant, et c'est très sympathique d'être là avec nous. Alors, pour commencer, une anecdote incroyable. Non, mais je vous raconte. On s'appelle pour préparer l'émission. Je lui demande, est-ce que tu as une petite photo pour mettre sur notre affichette qu'on met sur les réseaux sociaux pour faire voir quel est l'invité du dimanche. Hier j'étais avec Rachida Dati et j'étais en train de voir comment allait la Joconde, la toilette annuelle de la Joconde. Je dis quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, effectivement, il m'explique que tous les ans, il y a une toilette de la Joconde, on l'a défait du mur, du cadre et tout ça. Et c'est toi donc qui regarde si tout va bien. Donc on te voit au Louvre avec Rachida Dati qui regarde un peu si la Joconde va bien. Alors comment va la Joconde déjà ?
La Joconde, elle va très bien, heureusement. Elle est très très bien conservée au musée. Il y a cette vitrine qui gère un peu tout ce qui est le climat pour ne pas que le bois, vous savez, le bois ressent beaucoup des changements climatiques. Donc cette caisse protège de tout changement possible. Le tableau va très bien structurellement. Il reste toujours un tableau très faible, très très fragile parce que c'est sur un panneau de bois vraiment très très fin. Et voilà, on a regardé tous les ans. Il y a une personne différente qui regarde. Si tout va bien, on a des poussières, il nettoie la vitrine. Et cette année, j'ai eu l'honneur de le faire. Voilà.
Ça doit être complètement fou. Bah,
c'est complètement fou.
Devant la Joconde, là, le tableau, il est complètement à nu, avec ta petite lampe. Hein, on voit,
exactement.
Il y a une petite lampe. Hein.
Exactement, c'est complètement fou. Et on comprend pourquoi les visiteurs ils regardent de loin, mais la voir de près, vraiment, on comprend pourquoi le génie de Léonard.
Enrico ?
Oui, on a une question de la régie. Alors, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est bien la vraie Joconde qui est exposée ?
Il y a beaucoup de mythes là-dessus, comme quoi il y aurait deux, trois versions, mais non, je vous confirme absolument, c'est la, C'est l'original, c'est la belle version.
Bon voilà, donc on peut aller revoir la Joconde maintenant pendant encore une année tranquillement. Donc voilà, c'était de cette anecdote. Non mais c'est incroyable parce qu'en fait c'est comme si on demandait à voilà Hamilton, lui conduit sa petite F1 là comme ça tranquille. Ben bah, oui, bah hier je l'ai essayé quoi. Lui c'est pareil, ben bah, moi là j'ai dépoussiéré la Joconde quoi. Merci à toi. Alors on va parler un petit peu de tes origines. Tu viens de Messine.
Exactement.
Tu as étudié à Urbino. Et donc, comment tu es arrivé en France? Comment ça s'est passé pour toi?
En fait, j'ai terminé mes études de lycée à Messine. Après, j'ai étudié à Urbino, au centre à l'université Urbino Carlo Bo, à le corso di conservation et restauration de biens culturels, spécialisation peinture. Et à la fin des 5 ans, j'avais vraiment envie de faire une expérience à l'étranger. Par hasard, entre guillemets, parce que un de mes profs était fiancé à l'époque de son université avec une restauratrice qui travaille avec Cinzia Pasquali et qui aujourd'hui c'est une de mes collègues et qui me dit bah contacte Nicoletta, sûrement ils ont beaucoup de chantiers sur Paris, regarde s'ils ont besoin de quelqu'un. Et ben voilà, je suis arrivé le 2 février, le 4, je suis commencé à travailler avec Cinzia.
Alors on rappelle qu'Arcane, hein, moi, on a regardé un peu les restaurateurs qui sont là, effectivement, il y a au moins 5 restaurateurs.
On est même plus, on est, disons que depuis 20 ans, il y a entre 10 et 12 personnes qui sont toujours présentes. On est vraiment un groupe très solidaire, dirigé par Cinzia. Et après, on ajuste les intervenants par rapport aux dimensions des chantiers. Par exemple, quand Cinzia a fait la galerie des glaces, ils étaient 60. Quand elle travaille sous Léonard au Louvre, elle est toute seule. Donc, c'est vraiment un métier qui demande une adaptation des moyens humains pour chaque cas. Mais disons que Arcane, aujourd'hui, c'est vraiment 15 personnes qui travaillent tout le temps ensemble depuis plusieurs années.
Alors, juste pour savoir pourquoi tu es venu en France, est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité de... Parce qu'en Italie, à restaurer des tableaux, il y en a énormément aussi, donc... Pourquoi ça y avait
Il y en a
pas
beaucoup. C'était l'envie de faire une expérience à l'étranger. Normalement, j'aurais dû rester un an. Et après, une fois avoir connu Cinzia, tu peux plus t'échapper, au fait.
C'est vrai qu'elle est très sympathique.
Et en plus, j'ai eu la chance de. Le frère de ma grand-mère habite en France depuis 70 ans. Donc au fait, je suis arrivé, je le connaissais bien, on se voyait une fois par an, mais le fait d'arriver ici, il nous a créé un lien très très fort avec lui et sa femme, et au final, j'ai un peu reconstruit une petite famille ici, et je suis resté.
Alors, on va faire une pause musicale avec une dernière chanson des années 70, et après, on reviendra directement à la restauration des tableaux de Notre-Dame. Carmelo, là, tu nous proposes E-Romance.
E-Romance, donc c'est un autre complexe, donc, puisque dans les années 70, il y avait beaucoup de groupes, il y avait Caméléon, Dick Dick, Formula 3, il y en avait plein, c'était la mode. Hein. Et le leader de ce groupe a même écrit une chanson qui a beaucoup marché en France, vous connaissez tous, Tornerò, I Santo California, c'était de lui. Et E-Romance, voilà, ils avaient fait un carton aussi en 1974, toujours dans ce Hit Parade, au Momento in Più. Et Romance, vous allez vous rappeler de cette mélodie.
Ricominciare non è possibile ormai. Fra poco tu te ne andrai. Almeno prendi ogni cosa che forse domani potrebbe parlarmi di te. Guarda un po' giù, non passa un cane perché c'è brutto tempo, ma tu vuoi andartene, sarebbe meglio aspettare un momento di più. Certo lo so, soffrire per un po' è il giusto prezzo che si paga per riavere la libertà dimenticata ormai da quando siamo noi ne
solo noi. Resta se puoi, farò. Dolce di fare l'amore con te, se penso che per caso un giorno noi ci incontreremo, ma non riconoscerò negli occhi tuoi la stessa donna che dormiva insieme. Piove, lo sai, ma te ne vai. Na 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 na, na na.
Alors nous sommes avec Roberto Merlo qui est restaurateur de tableaux et là il a restauré les tableaux qui ont été abîmés lors de l'incendie de il y a déjà 5 ans hein, je crois. Pourquoi tu as été désigné pour restaurer les tableaux de Notre-Dame?
Comment ça s'est passé? La restauration des tableaux a fait l'objet d'un appel d'offres public. Donc plusieurs groupements de restaurateurs ont répondu pour la restauration des tableaux et il y en avait tellement qu'en fait ils ont décidé, l'administration a décidé de couper l'ensemble des tableaux dans différents lots. Donc il y avait 3 lots différents pour lesquels chaque ils ont choisi un groupement de restaurateurs dont nous qu'on a fait un des lots composé de 7 grands tableaux, les Charles Lebrun, le Lahir, le Blanchard, certains mets, certains ils n'étaient pas des mets. Et on a travaillé tous ensemble dans un très grand atelier qui a été conçu pour la restauration des grands tableaux de Notre-Dame en région parisienne.
Oui, alors, et c'est du coup, Arcane a décidé... Vous étiez plusieurs à Arcane?
On était plusieurs, on était une équipe de 10 personnes, toujours les mêmes avec mes collègues, et on a travaillé à tour de rôle sur toutes les œuvres dans cet atelier.
Voilà, parce que c'était impossible de donc restaurer les tableaux à l'intérieur même.
Non, absolument. En plus, au vu des gros travaux de rénovation qui devaient être faits à l'intérieur de l'église, c'était inenvisageable de travailler à l'intérieur.
Il fallait les transporter ailleurs et faire carrément un atelier. Alain ?
Oui, je voulais dire que les tableaux étaient là depuis 400 ans. C'était des tableaux du XVIIe siècle, donc ils étaient surtout noircis, enfin par le temps, ils avaient besoin d'être restaurés. C'est pas l'incendie qui les a trop abîmés. Et les mets dont parlait, qui s'écrivaient à l'époque M-A-Y-S, c'était des tableaux qui étaient offerts à Notre-Dame tous les ans au mois de mai. Et c'est comme ça qu'on a des tableaux de Lebrun, dont tu parlais pour le Versailles, de Lahir, de Le Sueur. Voilà. Il y a eu aussi le grand tapis qui a été restauré, mais c'est autre chose. Mais ces grands tableaux qu'on ne pouvait pas voir, qui étaient dans le noir jusque-là, on les a tous vus quand on est allé à Notre-Dame il y a 10 ans ou 15 ans. Et maintenant, là, on les voyait en plus exposés aux gobelins. Ils étaient à hauteur d'homme. On pouvait les voir dans le détail. C'était magnifique.
Ça va redonner un lustre à Notre-Dame.
Exactement. L'incendie, ça a été un peu l'occasion. Ils ont été empoussiérés davantage à cause de l'incendie. Mais l'incendie a été l'occasion privilégiée pour pouvoir enfin déposer ces tableaux qui étaient accrochés très très haut dans la cathédrale. Et que salle de 400 ans, très peu de restauration avait été faite. Donc c'était vraiment l'occasion privilégiée pour pouvoir enfin descendre ces tableaux, les étudier, parce que beaucoup de conservateurs n'avaient jamais vu de près ces tableaux. Donc c'était vraiment une occasion magique de pouvoir travailler sous les ordres et lui redonner vie.
Est-ce que tu es rentré dans Notre-Dame? Est-ce que
t'as pas eu... encore.
Pas encore. T'as pas eu l'occasion, c'est
non.
Au niveau de la sécurité.
On était rentré au départ, au moment de l'incendie, tout de suite après, au début des travaux. Mais,
tu as été quand même
oui.
À l'intérieur. Et alors, c'était?
C'était assez impressionnant parce qu'il y avait tout cet échafaudage monté à l'intérieur de la cathédrale. C'était, on aurait dit, vraiment une c'était impressionnant de toute la surface complètement recouverte d'échafaudage. et avec ce trou énorme au plafond. Ouais. C'était assez impressionnant. Ouais, ouais. Presque, ça rendait la cathédrale encore plus grande.
Alors, après, donc, ces tableaux ont été mis dans un atelier en région parisienne. Des tableaux qui sont très grands, je crois.
Ils sont très, très grands. Ils font environ, les plus grands, ils font entre 4, 5 mètres par 3, 4 mètres de large.
Ah, ouais.
C'est vraiment des très, très grands tableaux. Et donc, on a profité de cette occasion pour restaurer non seulement la couche picturale, mais aussi le support. Ils sont pratiquement tous peints sur toile, tendus sur des châssis en bois. Donc, on a vraiment revisé... l'ensemble de l'œuvre, restaurer le châssis, restaurer le support avec les possibles déformations qui s'étaient créées et les couches picturales, donc dégager tous les vernis altérés qui changeaient complètement les couleurs des tableaux et retrouver les vraies couleurs.
C'est un travail immense et finalement ça a été fait très très rapidement.
Ça a été fait, justement l'idée c'était de faire rapidement, c'est pour ça qu'ils ont décidé de couper les 24 ou 25 tableaux en trois lots, justement pour pouvoir travailler de façon simultanée sous l'ensemble des œuvres. Et en un an et demi environ, deux ans, on a terminé.
Très rapide.
C'est parce qu'il y a des moyens, il y avait des moyens quand même. Hein. Il y avait des moyens pour.
Oui, ils ont mis des moyens pour restaurer pour ça, rapidement, ouais. Il y a eu des donateurs. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu un engouement extraordinaire. Mais c'est vrai que ça a été un traumatisme pour les Français. Alors je ne sais pas si les Italiens, eux, peut-être se rendaient compte, mais c'est vrai que pour les Français, ceux qui ne sont pas catholiques, ça a été terrible cet incendie. Les gens pleuraient.
C'est un symbole.
Ah ouais, c'est très
dingue. Dans ouais. le monde entier. Hein,
ouais. Mais dans le monde entier. Mais c'est vrai que les Parisiens et les Français ont vraiment été très marqués par ça. Donc il fallait faire vite quoi, pour remettre ça en place. Donc voilà. Comment on procède quand on restaure des grands tableaux comme ça comment ça se passe?
En fait, on a été suivi par non seulement la DRAC, qui était en charge de la direction des travaux, mais aussi par le CDRMF. C'est la DRAC Île-de-France, c'est la direction des affaires culturelles.
Ah, d'accord.
Et par le CDRMF, le Centre de recherche des musées de France, qui a deux sièges, un au château de Versailles, un au Louvre, et qui gère les restaurations des tableaux des musées de France. Donc nous, quand on travaille, disons, le restaurateur est toujours la main qui travaille sous l'œuvre, mais derrière, on a les scientifiques, c'est le CDRMF qui nous aide à comprendre la matière des tableaux, et les conservateurs qui font toutes les recherches historiques. Donc disons, c'est vraiment un ensemble de trois personnes, comme le dit Cinzia, un tabouret à trois pieds. Et s'il y en a un qui manque, on tombe. Au moins, la restauration est faite à deux tiers. Et donc, les tableaux ont suivi tout d'abord toute une campagne d'imagerie scientifique faite par le CDRMF, des photographies infrarouges pour regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière la couche picturale, les dessins préparatoires, les changements, étudier la technique d'exécution et l'état de conservation des œuvres. Parce que avant d'intervenir, il faut comprendre qu'est-ce que les tableaux ont vécu, qu'est-ce qui les a endommagés et comment résoudre les dommages. Donc il y a eu toute cette panoplie de documents scientifiques et après nous sommes intervenus avec les premiers tests de nettoyage pour retirer ces vernis qui sont ensuite présentés à un grand comité scientifique composé par plusieurs experts et scientifiques pour juger, évaluer le niveau de restauration qu'il faut atteindre pour un résultat correct, homogène.
Alors, ce qui est fou, c'est que dans quelques semaines, enfin, je ne sais pas si tu vas assister à l'inauguration, mais donc les tableaux vont être accrochés. Je crois qu'ils doivent être déjà accrochés.
Je pense qu'ils sont déjà accrochés.
Et toi, tu iras te promener et puis tu verras les tableaux, puis tu diras ah ben oui, celui-là, c'est moi qui l'ai restauré. Celui-là, c'est moi qui voilà. Là, il y avait un problème avec le pied. Il a fallu que je fasse ça.
Exactement. Ils ont vraiment fait un très grand travail de d'éclairage parce qu'à l'intérieur de la cathédrale n'était pas vraiment très bien éclairé. Donc, vraiment, c'était un moment pour revoir tout.
Ça va être magnifique.
Déjà, l'exposition au Gobelin était assez impressionnante.
Oui, alors on rappelle que c'est l'exposition au Gobelin. Alain, c'était...
C'était là au début d'année, je me souviens plus. On voyait les tableaux là.
Les tableaux, donc, ont été exposés avant d'être remis dans Notre-Dame. Oui. D'accord. Alors, à faire une pause musicale avec une nouveauté, toujours avec Carmelo.
Si la transition est difficile, hein, mais okay. Oui. On va essayer.
Mina, elle n'est pas jeune non plus. Elle n'a pas l'âge de Notre-Dame.
Elle a plus de 80 ans et on ne la voit plus, Mina. Mais par contre, elle sort un album pratiquement tous les ans. parce qu'elle a un contrat avec sa maison de disques, elle doit sortir un album tous les ans. Et là, une nouveauté, son album s'appelle Gas Sadamante, et c'est des chansons inédites, sauf une, elle a repris une chanson de Fabio Concato. Il y a deux belles collaborations avec une chanson écrite par Elisa et une autre écrite par Francesco Gabbani, qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle Buttalo Via, donc nouveauté de Mina.
Adesso che è impossibile che scivolino tutte via le abitudini che tracciano una scia sul tuo vivere instabile che punti fermi non ha sopra un'altalena che ora mena e poi ti bacerà. È inutile intuire già il cambio di andamento, se la parte buona è credere sia migliore il sapore di quello che ancora non c'è. Ti bacerà. È inutile intuire già il cambio di andamento, se la parte buona è credere sia migliore il sapore di quello che ancora non c'è. Ti
écoutez Allegre FM 93.1.
Alors nous sommes avec Roberto Merlo et on parle de Notre-Dame, on rêve, on se projette.
Il y a pas mal de
échanges
intéressants.
Oui. Non, on voulait revenir sur Mina puisque l'album s'appelle Gassa da Mante et je me demandais ce que c'était et Roberto a la réponse.
Oui.
Roberto.
Alors la Gassa.
Définition.
J'ai dû chercher sur internet parce que je savais pas, c'est un type de nœud qu'on fait sous les bateaux, sous les cordages.
D'accord.
Ah bon, on aurait pu demander à Pédote et de le savoir. Ah,
on aurait pu demander à savoir, lui.
Alors, on reprend avec les restaurations des tableaux Notre-Dame. Alors là, ils ont été donc accrochés normalement. Est-ce qu'il y aura un travail après de, pour aller voir si tout se passe bien? Est-ce que voilà, oui.
Oui, au fait, sûrement il y aura une mise en
service après vente, quoi.
Ouais. Au fait, je pense qu'il y aura un contrat de maintenance après pour justement gérer, regarder une fois tous les ans si les tableaux vont bien, il n'y a pas de problème, etc.
D'accord. Alors là, c'était Notre-Dame, mais on sait que tu as d'autres projets aussi, notamment à Versailles.
Oui, en ce moment, on vient de commencer, de débuter un très grand chantier à Versailles, aux appartements du roi. C'est le salon de Diane, composé de quatre très grands bossures, plus un plafond, et des tableaux aussi qu'on restaure d'un autre atelier, parce qu'il y a certaines œuvres qui ne peuvent pas être bougées, comme un plafond, et d'autres qui sont restaurées d'un autre atelier parisien, et donc on est en train de les restaurer en ce moment même.
Alors là, on peut les sortir, les tableaux, on peut les amener à l'atelier. Alors qu'il y a des musées, on ne peut pas.
Exactement. Il y a deux musées qu'on ne peut pas sortir les tableaux, dont le musée du Louvre, qui a l'avantage d'avoir cet atelier, qui c'est le centre de recherche des musées de France, où on restaure tous les tableaux du Louvre, et le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay aussi, il a un très grand atelier pour les grands formats à l'intérieur de ce musée. Puis les petits tableaux vont au C2RMF. En revanche, d'autres musées comme le musée Jacques Marondré ou autre chose peuvent nous donner les tableaux directement à l'atelier Versailles, pareil.
D'accord. Et voilà, donc ça c'est une première chose. Alors on voulait juste revenir un petit peu à Notre-Dame parce que tu avais eu une réflexion intéressante par rapport à quand on a fait des fouilles pour restaurer un petit peu tout ça et on a découvert des choses incroyables.
Un des points positifs de malheureusement de cet accident, c'est qu'on a fait d'autres fouilles, y compris dans le sous-sol et tout autour de Notre-Dame, notamment pour installer des systèmes anti-incendie, refaire toute l'électricité. Mais on a découvert notamment un endroit qui s'appelle la cave de Soufflot, qui était accessible depuis le sol et qui descend 3,50 m sous le niveau de Notre-Dame, c'est-à-dire qu'on arrive au niveau de Lutèce des Romains, vraiment l'origine de Paris, enfin Lutèce à l'époque. Mmh. Voilà,
donc, de toute façon, ça va être extraordinaire quand on va pouvoir complètement aller visiter cette Notre-Dame avec ses tableaux, ses lumières, le mobilier qui a tout changé en plus, hein, tout l'éclairage.
Au Gobelin, il y avait aussi quelques échantillons justement du nouveau mobilier. Il y avait aussi les quatre grandes tapisseries qui ont été restaurées, ainsi que le tapis qui avait été simplement arrosé par les lances d'incendie.
Chantal, tu voulais dire deux mots?
Oui, je voulais demander, vu que dans une église, c'est toujours plus ou moins humide, est-ce que les tableaux, ils ont souffert de l'humidité?
En fait, ils ont sûrement souffert au tout début de l'humidité, mais après, l'église était tellement grand avec des murs très épais que le climat était toujours... Quand on rentre dans une église comme ça, l'été, il fait froid, l'hiver, il fait froid. Donc le climat est plutôt stable, bizarrement. Donc une fois qu'une œuvre est dans ce milieu, il s'adapte. Donc il se déforme s'il faut qu'il se déforme et il reste comme ça s'il n'y a pas de changement.
Sorties, donc vous allez les remettre, donc elles ont changé de température.
C'est pour ça qu'il y a un très grand suivi au niveau de l'humidité et température. L'atelier où on était à Bondoufle, il gérait justement tous ces changements. Tout était fait de manière très douce et avec des degrés très contrôlés pour justement éviter ces changements drastiques de température entre l'église et un atelier de restauration.
C'est comme les caves à vin. Si on a toujours la même température, ça reste...
Ça devient du vinaigre.
Voilà. Alors, bon, ça n'a rien à voir, mais on avait posé la question à Chine. Est-ce que toi, t'aimerais peindre?
Alors, non.
Voilà.
Non, c'est-à-dire que j'ai une passion pour les dessins, mais la peinture, c'est vraiment quelque chose que je sais copier, mais j'ai aucun esprit inventif.
Ouais. Et une autre question aussi un peu à part, est-ce que tu es pour ou contre l'entrée payante à Notre-Dame? Parce qu'il y a une polémique là.
Ah, personnellement, non, mais... malheureusement, c'est pas moi qui décide.
Pour pouvoir justement, avec l'argent, continuer à restaurer, enfin, s'il y a besoin.
Oui, je pense qu'ils ont... c'est à eux à gérer. J'ai vraiment pas d'avis.
14 millions de visiteurs, hein, quand même.
Oui.
14 millions de visiteurs.
Ah oui, ça va être de la folie. Dans les premiers mois, il ne faut pas y aller, parce que vous allez être complètement... Ça va être compliqué de pouvoir gérer ça. D'accord. Alors, quels sont tes projets, alors, à part le Salon de Diane, est-ce que Arcane a d'autres projets dans les cartons?
Bah, en ce moment, on a pas mal de tableaux du musée, dans notre atelier, du musée de région parisienne ou d'autres villes comme Besançon, Reims, Rennes. On a aussi des très beaux tableaux en ce moment, justement, à Reims, qu'on restaure au musée. Vous savez, le musée, il est en réhabilitation totale, le musée de Reims. Il n'y a plus rien, il n'y a que la façade en ce moment. Ils reconstruisent complètement tout leur aménagement. Et au fait, ils ont construit eux aussi des très gros ateliers de stockage où on restaure pas mal d'œuvres du musée.
Ah oui, donc il y a du travail pour quelques années. Hein,
je pense. En plus, on est malin, on fait tout réversible de façon que dans 50 ans, nos collègues pourront encore reprendre notre travail. Donc on se donne, on s'entraide.
Il y a une collaboration avec l'Italie quand même, parce que l'Italie, c'est aussi
justement,
le pays...
J'allais revenir. Parce qu'il y a un grand musée à Messine.
Oui, bah
justement.
Oui.
Alors, est-ce que tu as
non,
t'as
j'ai pas eu, là-bas j'ai non pas eu l'occasion encore de travailler non au musée de Messine.
Là, il a été rénové récemment.
Oui. Voilà. Il y a quelques années.
J'ai eu la chance de le visiter juste cet été.
Mais non, j'ai pas encore eu l'occasion encore.
Voilà. C'est à conseiller. Si vous allez à Messine, il y a un très
absolument
beau musée,
ouais,
très beau musée.
Alors, on a très beau Caravage et très belles œuvres.
Ouais, on en profite parce que justement, c'est un peu fait exprès. Carmel ouais, de Messine, Robert ouais, de Messine. Racontez-nous un peu. Alors la Sicile, un peu. Faites-nous là, on part un petit peu ailleurs.
Là, on parle que du pont en ce moment.
Oui.
On l'a parlé la dernière fois.
Ça fait quelques années qu'on parle.
Bah oui,
on
ça
parle
fait
de
des dizaines d'années.
Ça fait même plus, je pense.
Peut-être bien.
Même mes parents, quand ils étaient jeunes, ils discutaient encore du pont, pas de pont. Bah, franchement, je ne vis pas. Malheureusement, en étant parti très tôt de Messine, c'est compliqué de donner un avis là-dessus. C'est quoi, de l'extérieur, on dirait que ça pourrait être un projet vraiment magnifique, incroyable, que tout le monde viendrait voir. Mais après, est-ce que pour les gens qui vivent sur place, ça serait vraiment viable? Donc, c'est vu de l'extérieur, c'est très compliqué de donner vraiment un jugement là-dessus. Mais vu que ça fait plus de 50 ans qu'on en parle, est-ce que ça se fera un jour?
Bien plus.
Est-ce que tu as envie, toi, après, peut-être de retourner vivre en Italie? Ou est-ce que maintenant, ta vie est là?
Pour l'instant, ma vie est ici. Je me suis marié. Donc, c'est un peu compliqué de repartir. Mais à la retraite, sûrement. Il n'y a pas meilleur endroit.
Ah oui, d'accord, quand même. Hein, ouais. Est-ce que tu y vas, j'imagine, plusieurs fois par an?
J'y vais plusieurs fois par an, surtout l'été.
Et est-ce que tu vois un changement au fur et à mesure des années? Parce que toi, ça fait déjà plus de 10 ans que tu es parti de là-bas. Est-ce qu'il y a une évolution positive ou négative? Je ne sais pas, dis-nous.
Bah, moi, ce que j'aime, justement, quand je rentre en Sicile, c'est retrouver ce que j'avais laissé. Donc, je me concentre surtout sur les choses que je me rappelais d'avant et que j'ai envie de retrouver. Donc j'ai un regard un peu pas nostalgique, mais j'aime bien retrouver les mêmes habitudes. Donc j'ai pas ce regard. Est-ce que ça a évolué? Mais sûrement. C'est moi Sicile en général, ça évolue énormément.
T'as pas trop envie que ça évolue.
Il y a du surtourisme aussi en Sicile. Hein,
ah, Messine aussi.
Taormine, c'est devenu. Ça perd l'identité de Taormine est perdue.
Alors c'est surtout dans ces endroits comme Taormine qu'on voit l'évolution touristique
négative,
un peu négatif. Ça on a la réouverture de plein de boutiques de extra luxe au dépit de petites boutiques qui faisaient un peu le charme du petit village. Bon, il y a eu aussi la très connue série télé White Lotus qui a fait exploser le tourisme en Sicile, donc c'est un peu compliqué, je pense, de gérer les deux.
Oui. On parle pas trop de la vallée des Temples, d'Agrigente, c'est marrant parce qu'on.
Bah, disons pourtant, que Messine, c'est quand même à 3 heures, voire 4 heures.
Oui.
Parce que c'est. Bon, il faut s'imaginer, pour aller de Messine à Agrigente, il faut au moins 4 heures de route.
Les infrastructures toujours compliquées là-bas.
C'est en train de bouger avec la ligne à grande vitesse qui est en construction entre Messine, ce que j'expliquais la dernière fois, Messine, Catane, Palerme. Et qui plus tard mettra Palerme ou Catane à 4 heures de Rome, 4-5 heures de Rome, quand tu auras le pont plus tard. Mais sinon, c'est vrai que la vallée des temples, c'est magnifique, bien sûr. Il y a aussi toute la partie Sicile orientale avec Syracuse, Ortigia, Noto. Par là, c'est beau.
Et ça a beaucoup évolué. Oui, Noto, aussi. C'est devenu vraiment une destination privilégiée. C'est une ville magnifique de baroque sicilien, incroyable.
Ah, ce qui est étonnant, c'est que Roberto, il m'a dit bon, moi j'aimerais bien une chanson sicilienne, et puis il a choisi une chanson assez folklorique, hein, Rosa Balistreri. Et pourquoi? Parce que je me suis dit, il va peut-être prendre quelque chose d'un peu plus moderne de son âge.
Bah, je sais pas.
C'est important de rester.
Quand je pense à la Sicile, je pense toujours à elle. J'ai écouté beaucoup de chansons de cette chanteuse un peu. Des fois, ils sont un peu malinconiques, ces chansons, mais elles sont très fortes. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup.
Il y a quelques années, Serena Rispoli avait fait un récital sur Rosa Balistreri, justement. Merci Roberto,
non,
merci Roberto Merlo qui est restaurateur à Arcane. Et surtout, faut pas hésiter si vous avez encore des gros chantiers comme ça à venir nous en parler parce que ça nous fait rêver. Bon, on n'y connaît pas grand chose, mais on a l'impression d'être un peu avec toi quand tu nous dis, bah oui, c'est moi qui poussette là, je compte quoi.
Ça on est avec
grand
dedans,
plaisir. Quoi, grand plaisir. Oui, Alain.
Une dernière chose, Roberto nous a dit qu'il aimait le dessin. Il a fait des études à Urbino. Et j'ai oublié de citer l'exposition des dessins de Raphaël au musée des Beaux-Arts de Lille jusqu'à mi-février. Donc aussi une exposition à voir.
Alors on écoute une chanson de Rosa Balistreri. Oh là là, en sicilien, moi je peux
Guti
pas.
L'udisse. Guti l'udisse. Comment? Qui te l'a dit?
Qui te l'a dit?
Guti l'udisse. Mais Roberto sait parler aussi.
Merci Roberto.
Merci à vous. Merci.
La 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 Guti l'udissi che dai a lasciare meglio la morte e non questo dolore ai 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 maro 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 sciato di lumacori l'amore mio sento ai 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 maro 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 sciato di lumacori l'amore mio sento la 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 Guti lo dissi a ti anni cuccia, lo cuore mi scricchia, a picca 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 picca, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lumacori, l'amore mio setto, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lumacori, l'amore mio setto. Prima muri l'uffici cottia, etto schifiosa, ti stai scrutando mia, pace facemo, ogni gareggia mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio setto, pace facemo, ogni gareggia mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio setto. La 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 la.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Tu voulais rajouter Guti l'udissi est une chanson qu'a repris dans son dernier album Femina Gera Bertolone et que tu vas bientôt recevoir dans Cappuccino. Donc cette chanson sicilienne.
Oui, juste les auditeurs qui disaient pont petit patapon.
Oui, ça c'est déformé.
C'est pont pas pont petit ouais. Patapon.
Pont,
est-ce qu'on fait pont ou on fait pas le pont? Pont ouais. Pas pont petit patapon.
Deux annonces rapidement. Vinicio Capozzella sera en concert au Bataclan le 10 décembre à 20h. Le Bataclan se trouve au 50.
C'est complet, hein.
Boulevard de Voltaire.
C'est complet.
Ouais, ouais. Donc, d'accord. Mais enfin, on sait jamais. Donc, téléphone 01 43 14 00 30. Et le bal Rital, là, ça sera pas complet. Le dernier de l'année aura lieu le 14 décembre à la Marbrerie de Montreuil, 21 rue Alexis Lepère, métro Mairie de Montreuil, cantine italienne à 20h et bal à 21h avec la participation de Pepe Valtarelli quand même. Ah oui. Donc si vous êtes intéressé, vous téléphonez au 01 43 62 72. Et on rappelle que l'association Italienne in Europe organise un repas dansant
le
26 janvier à Aubervilliers. On donnera plus d'informations. Allez, il est 10h30, c'est l'heure des informations italiennes présentées par Raffaele D'Agostini.
Thank you.
Ah, le petit train qui s'en va. C'est agréable aujourd'hui, on a appris plein de choses sur les tableaux, Notre-Dame, l'anniversaire d'Enrico. Enfin voilà.
C'est Enrico, pas Enrico.
Attention.
La française, c'est Enrico Macias, pas Enrico
Macias. Oui, non, mais lui, il n'est pas tout à fait.
C'est Enrico.
Enrico en italien. Enrico.
Alors, en français, c'est Enrico.
Non, c'est Enrico. Tu dis Enrico Macias, tu dis pas Enrico Macias. Ça s'écrit pareil, ça se dit pareil.
Bon, vous pouvez appeler au 01 40 24 29 29 pour trancher cette
épineuse.
C'est épineux.
On va arrêter avec la polémique là.
Voilà.
Buona domenica, buona settimana e a domenica prossima, stessa ora, stessa frequenza.
Ah bon, c'est pareil?
Oui, stessa frequenza.
D'accord. Et toi aussi?
Non, moi je vous dis à dans 15 jours.
D'accord.
Et le travail. Le travail.
On vous souhaite un bon dimanche, plein de bonnes choses. Écoutez de la musique italienne, écoutez.
Cappuccino.
Cappuccino le dimanche et n'hésitez pas à nous appeler. Ciao, ciao à tutti.
Ciao.